Radio Vatican, France et Afrique. Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Que les Jeux Olympiques deviennent des occasions d'harmonie fraternelle qui nous permettront de surmonter les différences et les oppositions ainsi que de renforcer l'unité. Le pape l'a affirmé dans le message qu'il a adressé vendredi 19 juillet à l'archevêque de Paris. L'actualité de l'Église en la date du 19 juillet est également marquée par la publication du programme officiel du voyage du pape en Belgique et au Luxembourg fin septembre. Elle concerne également le message du président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar sur les 60 ans d'existence de cette institution de l'Église. L'actualité politique et sociale sur le continent africain concernera le Soudan, le Cameroun et le Niger. La deuxième partie de ce programme est dédiée à l'actualité internationale de la semaine. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme et que nous commençons avec l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
À une semaine de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront du 26 juillet au 2 août, le pape a adressé un message pour l'occasion rappelant que cet événement est, par sa nature, porteur de paix et non de guerre. Les détails avec Vianney Groussin.
Les Jeux Olympiques sont par nature porteurs de paix et non de guerre. C'est ce qu'a déclaré le pape. Je souhaite ardemment que chacun ait à cœur de respecter cette trêve, a-t-il ajouté, citant les origines antiques de cette tradition et surtout la nécessité aujourd'hui de la paix dans un monde où elle est gravement menacée. Le Saint-Père a également exprimé dans son message le souhait que les Olympiades de Paris soient une occasion de faire tomber les préjugés, de faire naître l'estime là où se trouve le mépris et la méfiance, l'amitié là où se trouve la haine. Car le sport, s'est réjoui François, est un langage universel qui transcende les frontières, les langues, les races, les nationalités et les religions. Ce doit être un moment de communion et notamment pour le peuple de France, espère le pape. Il a enfin encouragé les communautés chrétiennes qui s'apprêtent à ouvrir les portes de leurs églises et de leurs maisons, à ouvrir celles de leur cœur et à témoigner par leur accueil du Christ qui communique sa joie.
Le bureau de presse du Saint-Siège a rendu public vendredi 19 juillet le programme du 46e voyage apostolique du pape François au Luxembourg et en Belgique du 26 au 29 septembre. En 4 jours, 11 rencontres sont prévues, dont 6 publiques, 9 discours seront prononcés, ainsi qu'une homélie lors de la messe, événement final de ses déplacements dans le Benelux, où François se rendra à l'invitation des autorités politiques et ecclésiastiques luxembourgeoises et belges. Parmi les événements qui vont marquer ce voyage, le jeudi 26 septembre, dans l'après-midi, le pape se rendra à la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, où il s'adressera à la communauté catholique du Grand-Duché, qui ne compte qu'un diocèse créé à la fin du 19e siècle, érigé en archidiocèse un siècle plus tard par le pape Jean-Paul II. Sur le sol belge, la journée de samedi 28 septembre sera consacrée à une première rencontre avec les évêques, les prêtres, les diacres, personnes consacrées, séminaristes et acteurs pastoraux dans la basilique du Sacré-Cœur de Keckelberg. Puis François se rendra à l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve pour échanger avec les étudiants de l'établissement catholique. Au dernier jour de son déplacement, le dimanche 29 septembre, François présidera une messe au stade Roi Baudouin où il récitera la prière mariale de l'Angélus. À l'issue de la messe, le pape reprendra la route vers Rome. Le 28 juillet, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar célèbre ses 60 ans d'existence. Dans un message adressé à l'Église Famille de Dieu en Afrique pour cette occasion, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et président du CHEYAM, appelle les chrétiens catholiques du continent à continuer de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est espérance, paix, joie, harmonie, amour et unité, en dépit des crises sociopolitiques auxquelles l'Afrique est confrontée. Christian Lossambe pour les détails.
Le cœur du message du cardinal Ambongo s'est inspiré de la célèbre phrase prononcée par le pape Paul VI en visite en Afrique du 31 juillet au 2 août 1969, au cours de laquelle il présida la cérémonie de clôture du premier symposium des évêques africains. « Vous, les Africains, vous êtes vos propres missionnaires. » C'est avec ces mots que le président du CHEAM a souligné combien l'Église en Afrique s'est beaucoup développée et de bien de manières. En dépit de cette croissance remarquable, a-t-il fait observer, l'Afrique continue d'avoir faim et soif de Jésus et de l'Évangile, puisque les chrétiens ne représentent que 30% de la population africaine. Sur ce, a-t-il souligné, il est absolument nécessaire et urgent que l'Église en Afrique s'engage dans la tâche de l'annonce de la bonne nouvelle, prenant toujours en compte l'inculturation de l'Évangile et de la foi chrétienne. Faisant mention également de nombreux problèmes auxquels est confronté le continent africain, notamment la pauvreté réelle, l'instabilité sociopolitique et la mauvaise gouvernance, le cardinal Ambongo a appelé l'Église en Afrique à continuer de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est espérance, paix, joie, harmonie, amour et unité, et à demeurer des sources de paix et des agents de réconciliation. Soulignant au terme de son message que l'école de la synodalité nous rappelle notre appel à évangéliser le monde et à marcher ensemble dans le cadre de la participation à la mission de l'Église, le président du CHEAM a appelé l'Église en Afrique, renouvelée par le voyage synodal, à embrasser la mission évangélisatrice jusqu'à ce qu'elle atteigne toutes sortes de périphéries avec une nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes et des structures renouvelées.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au Niger, le régime au pouvoir a annoncé des baisses des prix de l'essence et du gasoil à la pompe à partir du 23 juillet. L'objectif de ces réductions est de permettre la baisse du prix des transports et par voie de conséquence, celle des produits de première nécessité. L'économie nigérienne a souffert ces derniers mois des sanctions ouest-africaines imposées après le coup d'État du 26 juillet 2023, mais levées en février et de la suspension des programmes d'aide par plusieurs pays occidentaux. En 2022, l'augmentation du prix du gasoil avait suscité un vif tollé dans ce pays. Les discussions entre les deux parties en guerre au Soudan et un émissaire de l'Organisation des Nations Unies, le diplomate algérien Ramtane Lamamra, sont une première étape encourageante. C'est ce qu'a affirmé la porte-parole de l'ONU, Alessandra Vellucci, lors d'un point de presse à Genève. L'envoyé personnel pour le Soudan du secrétaire général de l'ONU compte désormais sur les parties pour traduire rapidement leur volonté de dialoguer avec lui en progrès tangibles sur le terrain, tant dans la mise en œuvre des accords existants que par d'éventuels engagements unilatéraux, a-t-elle ajouté, précisant que le diplomate restait en contact avec les différents protagonistes. Le gouvernement camerounais a dénoncé jeudi la montée des propos injurieux contre les institutions et ceux qui les incarnent venant de concitoyens et de leaders politiques dans la perspective de l'élection présidentielle en 2025. Le ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a assuré que le Cameroun se veut une démocratie et un état de droit dans lequel les Camerounais peuvent s'exprimer sans aucune contrainte. Ces déclarations interviennent après la publication mardi d'un arrêté par le préfet du département de Foundi, où se trouve la capitale Yaoundé, menaçant d'une interdiction de séjour dans le département toute personne qui outrage dangereusement les institutions ou celui qui les incarne. Terminons ce programme avec l'actualité internationale de la semaine présentée par Françoise Niamien.
Commençons cette synthèse de l'actualité internationale par la mégapanne informatique qui a paralysé vendredi une partie de l'économie mondiale et les organisations des JO de Paris. Nous avons connaissance d'un problème affectant les appareils Windows suite à une mise à jour d'une plateforme logicielle TS. Nous prévoyons une résolution prochaine, a affirmé le géant américain Microsoft à propos de cette panne signalée vers 6h30 GMT. Vendredi, des houthis du Yémen ont revendiqué l'attaque à Tel Aviv, disant l'avoir menée à l'aide d'un drone. Les autorités israéliennes faisaient au moins état de mort. Les houthis mènent depuis des mois des attaques contre les navigations au large du Yémen, dans les eaux stratégiques de la mer Rouge et du golfe d'Aden, disant agir en solidarité avec les Palestiniens dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé vendredi ses alliés à lever les restrictions imposées à Kiev sur l'usage des armes occidentaux contre la Russie dans un discours devant un conseil des ministres exceptionnel du gouvernement britannique. Alors que des bombardements russes ont tué vendredi au moins 2 civils et fait 7 blessés dans la région ukrainienne de Kherson, ont indiqué les autorités locales qui recensent des tirs quasi quotidiens. Les conditions météorologiques extrêmes que connaît la Chine cet été ont fait au moins 5 morts et 8 disparus, victimes de fortes pluies tombées notamment à Baoji, à 1 000 000 de kilomètres au sud-ouest de Pékin, ont rapporté vendredi les médias d'État. Depuis mardi, de larges ponts du nord et du centre de la Chine sont touchés par des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et d'importants dégâts matériels. Ursula von der Leyen a été reconduite jeudi par les eurodéputés pour un second mandat de 5 ans à la tête de la Commission européenne, promettant de faire de l'industrie, de la défense ou encore du logement ses priorités. À l'issue d'un vote à bulletin secret, la dirigeante allemande de 65 ans a obtenu 401 votes de soutien, nettement au-delà de la majorité absolue dont elle avait besoin. Elle avait décroché fin juin le feu vert des 27. Devenue en 2019 la première femme à prendre la tête de l'exécutif européen, l'ancienne ministre allemande s'est imposée à travers les crises. Donald Trump s'est dépeint jeudi en dirigeant à la stature internationale capable de mettre fin au conflit dans le monde avec un coup de téléphone tout en décrivant une vision apocalyptique du monde actuel. Nos adversaires ont hérité d'un monde en paix et l'ont transformé en une planète en guerre, a-t-il déclaré dans un discours. Regardez cette attaque contre Israël, regardez ce qui se passe en Ukraine, a-t-il lancé. Le Parlement israélien a voté une résolution rejetant l'établissement d'un État palestinien, une proposition adoptée avec 68 voix, jugée très décevante par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Son porte-parole a déclaré jeudi à la presse que la solution à deux États vivants, côte à côte, en paix et en sécurité, était le seul chemin viable vers une paix durable. Les précisions à Tel Aviv de Sandy Fortis.
Le Parlement israélien a voté une résolution rejetant l'établissement d'un État palestinien. Une proposition présentée par un député de l'opposition et soutenue par plusieurs partis de la coalition et de l'opposition, puisqu'elle a été adoptée à 68 voix pour, seuls 9 députés ont voté contre. Le texte affirme que la création d'un État palestinien au cœur de la terre d'Israël constituera un danger existentiel pour l'État d'Israël, que ce n'est qu'une question de temps avant que le Hamas prenne le contrôle de cet État et en fasse une base pour le terrorisme islamique radical. Le projet de loi fait suite à un autre, voté en février, dans lequel la Knesset s'opposait à la reconnaissance internationale unilatérale d'un État palestinien. Pour le député Gideon Saar, cette décision vise à exprimer la position écrasante du peuple et signale à la communauté internationale que les pressions pour imposer un État palestinien à Israël seront vaines. Benny Gantz a quant à lui ajouté que la reconnaissance d'un État palestinien serait une récompense pour le terrorisme. Le vote a rapidement été critiqué par la communauté internationale, dont la France, qui a exprimé sa consternation. Il risque par ailleurs d'ajouter quelques tensions au séjour de Benjamin Netanyahou aux États-Unis dans quelques jours. Depuis Tel Aviv, Sandy Fortis pour Radio Vatican.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mando-Boisboileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir, à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.
De la justice et de la paix. L'Église est en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix.
La guérison d'une Afrique, elle a servi de la réconciliation. Justicia y de la paz.
La Chiesa di Africa.
Lokola ezala kiliboso,
nani le kore.